Bienvenue à Objectif numérique, épisode 29. Au menu, on parle de photos de voyage avec un invité. François va nous donner 5 trucs que chaque photographe voyageur devrait savoir. De mon côté, je vais compléter aussi avec quelques petits trucs pour de la photo de rue en voyage. Et Christian fait la critique du Nikon Coolpix A. Comme à l'habitude, de Christian Jarry est là.
Bonjour.
François Blanchette.
Salut.
Moi-même, Stéphane Vaillancourt. Et nous avons un invité pour cet épisode, Pascal Dupré.
Bonjour.
D'ailleurs, on va commencer avec une petite présentation. Pascal est directeur des opérations au Club Aventure à Montréal. Donc, ça lui est arrivé à plusieurs reprises de faire des voyages et c'est pour ça qu'on l'a invité. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené justement à faire de la photo?
Évidemment, quand j'ai commencé à faire des voyages, il y a quelques années déjà de cela, dans les années début 2000.
Puis, quand tu as commencé à faire de la photo, justement, en voyage, est-ce que tu étais déjà équipé au départ ou tu as commencé avec quoi? Puis...
Bien, évidemment, au départ, j'avais des appareils comme tout le monde, le compact, automatique, avec film aussi.
Ouais.
Après ça, j'ai transféré avec de l'argentique, avec en réflexe. Et après, j'ai eu mes premiers appareils numériques. Évidemment, on a commencé avec du 2 mégapixels. On est loin de avec quoi je shoot aujourd'hui.
Ouais, ouais, ouais. Et justement, avec quoi shootes-tu aujourd'hui?
Moi, je suis rendu que je shoot avec du Pentax. C'est sûr que le Pentax, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui utilise ça de ce temps-ci. Hein. C'est plus Nikon, Canon, évidemment, les grands constructeurs, si on peut dire. Pourquoi moi, Pentax? C'est qu'au départ, j'ai acheté mon premier argentique Pentax. Je me suis équipé avec des lentilles. Mm-hmm. Donc, pour éviter de... changer.
Ou devoir changer.
Et, ouais, ouais. Et l'avantage du Pentax aussi, que je trouve sur les lentilles, on n'a pas besoin. Les lentilles coûtent moins cher parce que.
Oui, la stabilisation est sur le boîtier.
La stabilisation est sur le boîtier et tout, là. Donc, ça aide.
Oui, tout à fait.
C'est non négligeable.
Oh,
oui,
c'est sûr.
Bon, ben, super. Puis, c'est ça. Si, justement, toi qui as voyagé pas mal et que tu étais guide dans une autre vie, guide touristique, donc. T'as amené des gens à voir des trucs. Est-ce que tu as des conseils à donner justement aux gens qui voyagent et qui voudraient faire de la photo de voyage?
Évidemment, ça dépend du contexte. Hein. Tu l'as dit, j'ai guidé. Donc, quand on guide, c'est plus soutenu comme RIP. Donc, on a moins de flexibilité pour retourner ou attendre le bon moment. Quand moi, je pars pour moi tout seul et pour mon plaisir propre, il y a des fois, je peux passer 2 jours sur un site à attendre la bonne lumière, le bon moment, mais c'est pas tout le monde qui peut faire
non, ça.
C'est
un luxe. Ouais,
je vais t'avouer, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais eu ce luxe-là d'attendre la lumière.
Moi, j'ai eu le luxe. J'ai passé une semaine déjà sur la Grande Muraille, en Chine, juste pour avoir la bonne lumière.
Hey, donc, mon Dieu.
Ouais, donc, c'est sûr que c'est une chance que j'ai que c'est pas tout le monde qui peut avoir. Mais évidemment,
juste d'être là pour commencer.
C'est se lever tôt. Ouais, peu importe où on va être, c'est se lever tôt parce que la lumière. On ne sait pas quand elle va être là.
On ne connaît pas l'endroit, exactement. Donc on ne sait pas exactement où le soleil va se lever. Ça prend un peu de... Il faut faire de la reconnaissance.
J'ai profité d'ailleurs, une petite anecdote comme ça, j'ai profité de son conseil qu'il vient de nous dire de se lever tôt. Parce qu'en 2004, j'ai voyagé en Chine avec Pascal. Et il m'avait dit, François, demain, on s'en va sur la Grande Muraille. On se lève à 3h du matin, 3h30, quelque chose comme ça.
3h30 pour partir à 4h à peu près.
Il fallait être là avant le lever du soleil pour 2 raisons principales. 1, la lumière. 2, arriver avant les autobus de touristes.
Ah, voilà.
Puis ça, c'était pour moi la meilleure raison parce qu'on était seul. Notre petit groupe, on était quoi, 5 personnes? On était seul sur la Grande Muraille de Chine. J'ai vécu un de mes plus beaux moments de photographie, puis même, je dirais, de spiritualité personnelle. Étant même pas croyant dans rien du tout, j'ai quand même vécu un petit moment parce que j'ai dit au groupe, si ça vous dérange pas, je pars dans cette direction-là, laissez-moi juste un 15 minutes tout seul. Jusqu'à temps que je les vois, que je les perde de vue, j'ai marché sur la Grande Muraille de Chine. Puis quand je les ai perdus de vue, là, j'étais seul au monde sur un ouvrage qui était bâti il y a 4000 ans, je pense, quelque chose comme ça.
En fait, c'est en 200 à peu près avant Jésus-Christ.
Mais on va diviser
mais
par deux.
Mais en fait, aussi dans le tronçon qu'on est allé, François, c'est un tronçon plus récent. Là. C'est des années 1100-1300.
OK. Oui. En tout cas, merci Pascal. C'était un moment magique pour moi.
Sinon, justement, bon, c'est un bon truc aussi d'y aller avant les touristes quand on a l'occasion. surveiller la lumière, le lever du soleil. Si vous visitez... tu as visité le Machu Picchu aussi, d'ailleurs.
Exactement. Ben, il y a d'autres phénomènes aussi. Il y a la lumière, les gens. Des fois, on arrive sur des sites comme au Machu Picchu, c'est vrai. Tout le monde arrive en même heure.
Mm-hmm.
Donc, le truc, c'est, oui, faire son repérage et dire, on va rester une heure de plus puis attendre que tout le monde soit pas là.
Ouais.
Donc, je pourrais montrer des photos encore là du Machu Picchu et j'ai personne sur mes photos. Pas parce que cette journée-là, il y avait personne, c'est parce que j'ai été capable d'attendre. Mm-hmm. J'ai été capable aussi de me tourner à des endroits où je voyais personne.
Ouais, ouais.
Donc, faire un cadrage plus serré, par exemple, d'un endroit. Donc, c'est des petits trucs.
C'est d'y aller pour les extrémités. Le début de la journée, la fin de la journée, ça peut être intéressant.
Oui, souvent, le monde veut pas son paresseux. Hein?
Oui, c'est vrai. Non, mais,
ou pressé, ils veulent en faire le plus possible.
Ou c'est des expositions organisées où ce que tu es obligé de suivre un horaire, fait que tu es obligé de suivre
c'est
le groupe.
Ça, c'est un peu dommage, justement. Mais moi, je trouve ça bien que toi, en tant que guide, tu avais proposé aux gens, écoutez, on va rester et on va profiter du fait que... on va être entre deux groupes peut-être, ou bien qu'il n'y a plus personne sur le site parce qu'il est sur le point de fermer ou des trucs comme ça. C'est
puis,
bien.
Puis aussi, idéalement, quand on est dans, n'importe où dans le monde, si on est capable de parler aux gens locaux, eux, ils savent aussi c'est quand les meilleurs moments, c'est quand c'est plus achalandé. C'est sûr qu'il y a des endroits que c'est peut-être moins évident, la barrière de la langue, mais un humain reste un humain. On est toujours capable de dialoguer avec les signes.
Tu peux communiquer pareil, oui.
Puis avec la technologie à maintenant,
c'est vrai.
On a des dictionnaires dans toutes les langues.
Il y a Google Translate et compagnie. Non, c'est bien. Et d'ailleurs, tu parlais des locaux. Est-ce qu'on les photographie, les locaux? Est-ce qu'on le fait candidement? Est-ce qu'on demande la permission? C'est quoi ton approche à ce niveau-là?
Moi, idéalement, je pense qu'il faut demander la permission. Évidemment, si on a un zoom 300 là, puis qui est extrapolé à 450, peut-être qu'on n'a pas besoin de demander la permission parce que les gens sont trop loin, ils ne savent même pas qu'on les prenne.
Mm-hmm.
Mais si on prend quelqu'un à 3 pieds, à 3 mètres de nous, ils le savent. L'objectif est dans leur direction. Ce serait la moindre des choses d'aller les voir, lui demander. Et règle générale, 95% du temps, les gens disent oui.
Ouais. Est-ce que ça fonctionne de demander juste en faisant un sourire ou en pointant son appareil ou s'il faut vraiment t'adresser à la personne?
Ben, juste en montrant l'appareil, ça fonctionne parce qu'ils connaissent les appareils maintenant. Un peu partout, moi, je suis allé sur la route de la soie dans des coins, des bleds perdus et ils savaient qu'est-ce qui se passait. Puis même un coup que la photo était prise, les gens venaient me voir pour voir la photo.
Ouais,
avec le numérique, ils peuvent le voir tout de suite.
Ça, c'est bien aussi d'offrir à la personne, veux-tu voir la photo? Après, ils sont contents normalement.
Ce truc-là, je l'ai vu souvent. Souvent, d'offrir, de montrer les photos au monde parce que ça les met en confiance.
Oui.
Puis de même, ils t'offrent d'en prendre d'autres.
Puis s'ils sont pas... ils n'aiment pas la photo qui vient d'être prise, ils peuvent le dire.
Tout à fait.
Donnes absolument le droit de refuser d'être photographié.
Puis l'autre chose aussi, quand on montre la photo, c'est facile de montrer notre adresse email et demander s'ils en ont une pour leur envoyer.
C'est vrai.
Ça, c'est une bonne idée.
Ça, on y pense rarement, mais il y a des gens qui sont contents.
C'est vrai que
ça.
De l'offrir avant qu'eux te le demandent, déjà, tu démontres beaucoup de bon vouloir.
Parce que ça ne nous coûte rien d'envoyer un courriel avec deux, trois photos.
Ben oui.
Ça me ferait plaisir. Moi, j'avoue, être dans cette situation-là, de pouvoir offrir ça à cette personne-là, tu sais pas, ça peut être...
Peut-être qu'une amitié peut naître de là. Et
sans blague, tout à fait.
Tu peux retourner en voyage, puis les gens peuvent t'offrir de t'héberger ou... t'sais.
Il y en a qui disaient... Je lisais des articles comme ça qui disaient, comme je te disais, tu leur offres de montrer photo. Il y en a qui disaient, je me suis fait offrir à manger, je me suis fait offrir à boire. Plein de choses, comme sans dire des amitiés, mais tu sais, des belles relations simples avec les gens, que ça peut arriver.
Puis exactement. Si on a même encore plus de temps avant de prendre les photos, ça pourrait être même de jaser avec les gens. Parler de qui on est, de où on vient, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, leur poser des questions sur eux, ce qu'ils font. Et là, après, en toute amitié, lui demander, je peux-tu prendre une photo de toi? Puis ça, à 100%, ça fonctionne.
J'en doute pas.
Ben, c'est ça, c'est que là, tu bâtis tranquillement ou rapidement une relation avec la personne et elle voit quel genre de personne t'es et que tu as pris le temps de discuter avec elle. Et là, ben, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, la barrière tombe là, finalement.
Puis ça évite une chose très importante des fois en voyage, on se fait demander de l'argent pour les photos parce qu'il y a des touristes qui ont payé auparavant, puis ça enlève ça. Si tu veux pas payer, si tu as posé question... il n'y a pas de chicane. Si tu prends la photo, tu n'as pas posé la question, la personne va être payée. Dans certains pays, ça peut te créer des gros embarras.
Mm-hmm.
J'en doute pas.
Pascal, est-ce que, parlant de ta photo du Machu Picchu, où il n'y a pas un chat sur cette photo-là, est-ce que tu accepterais de nous donner un exemple qu'on puisse publier sur nos objectifs numériques?
Mais oui, tout à fait, il n'y aurait pas de problème. Excellent. Je vous enverrai ça.
Super, on va partager ça avec tout le monde.
Alors, vous voyez, il suffit de demander. Ça fonctionne à tous les coups.
C'est concept. C'est
mais
concept.
Vous irez voir dans les notes. Donc, merci Pascal. Il va nous fournir une belle photo du Machu Picchu où il y a pas presque, il y avait
ouais,
peut-être
y en a,
deux, trois
évidemment,
personnes.
Mais il y en a moins que si on y va au matin puis qu'il y a 500 personnes sur le site.
Ouais.
C'est sûr qu'il y en a. Il y en a peut-être une dizaine, une quinzaine. Mais entre 15 puis 400...
Ah, c'est
on différence. Peut dire qu'il n'y a personne dessus.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.
Moi, j'avais eu la chance, justement, je suis allé visiter Chichen Itza.
Au Mexique.
Au Mexique, et c'est ça. Et il n'y avait pas beaucoup de monde quand on a fait la visite, mais c'est en 2001 et je n'avais pas d'appareil numérique à l'époque. Donc, c'est, j'avais à peu près un film ou deux, là, peut-être entre 24 et 48 photos que je pouvais prendre sur tout le site de Chichen Itza, qui est quand même gros. Et, mais j'ai pris des photos où il n'y a presque personne dans les ruines. C'est génial, justement. Mais pourtant, on était en plein après-midi, ou en tout cas, c'est bien tombé. Le timing était bon, il n'y avait pas trop de gens, où on était entre deux gros groupes. Et c'était quelque chose que j'ai trouvé intéressant, justement, parce que c'est pas une marée humaine que là, tu essaies de voir un coin de building où il n'y a personne. C'est des fois, ben, le
hasard
fait
qu'on a les gens qu'on connaît même pas sur la photo.
Oui, c'est ça. Tu as 300 personnes que tu n'as aucune idée c'est qui. Tu n'as même pas de compagnon de voyage ou quoi que ce soit. C'est un peu dommage, mais c'est ça.
Super.
Et on va maintenant enchaîner avec les 5 trucs de François pour le voyage, la photo de voyage.
Oui, alors je vous mets en contexte. Disons que vous êtes un photographe plutôt professionnel en voyage.
Ben, professionnel, okay. Tu veux dire bien équipé ou...
Bien équipé et qu'on se fait payer aussi pour faire quelques contrats. Bon, contrat, je sais que ça parle pas à tout le monde, mais il y a quand même quelques photographes professionnels qui nous écoutent qui ont ça comme travail principal dans leur vie. Donc, quelques trucs que j'ai notés sur le web. D'ailleurs, il y en a quelques-uns que je pratique moi-même. Ça se recoupe avec l'information sur le site que j'ai trouvé. Premier truc... Puis ça, là, ça, je le pratique pas, ce truc-là, mais il est vraiment cool. On transforme sa caméra de façon à ce qu'elle soit LED, puis pas intéressante.
Oui, je l'ai vu souvent, celui-là aussi.
Mais d'ailleurs, il y a de plus en plus de photographes professionnels qui s'équipent avec, disons, une OMD
EM5. Oui, ou la Nikon, c'est qui? C'est Bernard Brault, photographe de la presse, qui utilise, c'est la Nikon N1.
C'est possible.
C'est mais la c'est petite, ça... là, avec gros, les gros objectifs et le kit. Là, pour lui, c'est plus commode. Puis deux, s'il se le fait voler,
ben c'est
grave.
Ça. C'est que le boîtier est moins imposant, donc il accroche moins l'œil des voleurs. C'est puis c'est plus facile à transporter aussi.
Oui.
C'est moins lourd, c'est moins encombrant. Fait que ça peut être un truc aussi de prendre un appareil comme moi avec mon Sony Nexis. C'était génial en voyage parce que je mettais ça dans une petite pochette. J'avais pas mon 60D avec mon gros objectif. Puis ça aurait pu peut-être attirer l'œil un peu plus.
Mais dans le cas que vous avez un DSLR qui est très voyant, là, un Nikon, un Canon, un Pentax, quelque chose qu'on voit que ça vaut cher comme appareil, ben on prend un bout de ruban d'emballage, on prend un bout de ce qu'on appelle du duct tape, n'importe quoi, juste pour avoir l'impression que la caméra elle a été réparée.
Oui,
elle a été échappée,
un gros ruban adhésif noir qui fait le tour du boîtier.
On la transforme en caméra LED carrément. Le but de ça, évidemment, c'est de décourager les voleurs. Ils vont se dire OK, la caméra n'est pas bien intéressante pour la revente. Donc, lui, déjà, ça lui coupe l'envie parce qu'il n'y a pas de profit à faire avec ça. Un voleur qui vole ça, c'est pas
cacher
souvent pour
marque.
Lui. Là.
Cacher la marque.
Ou cacher
avec
la marque,
avec du tape électrique noir. Là, parce que là, l'avantage, c'est que lui, s'il a l'avantage d'en voir une Nikon, une Canon ou qu'est-ce qu'il sait pas, il va aller pour les deux autres, c'est sûr et certain.
Ouais.
Et d'ailleurs, la courroie de l'appareil où c'est écrit en gros Nikon 4D,
ben oui.
D4, des trucs comme ça.
C'est comme ça que je les spot souvent, oui.
Ben c'est ça, mais ça donne tout de suite la valeur du modèle s'ils savent le moindrement.
Exact, c'est vraiment... Donc, n'importe quel truc que vous pensez pour transformer votre caméra en caméra pas intéressante, c'est vraiment une bonne façon de se couper de plusieurs... plusieurs voleurs, je dirais. Même le sac de transport. Oui. On peut prendre un vieux sac à dos. Il y en a qui ont quand même des bons compartiments. Évidemment, il y a des sacs photos là, qui sont super bien faits, mais on le sait, on les voit.
C'est
là, on le sait que c'est un appareil qui vaut de l'argent qu'il y a là-dedans.
Ouais.
Deuxième truc. si on voyage pour un contrat, on est rémunéré. Souvent, quand on arrive aux douanes, il faut le déclarer qu'on est un photographe professionnel parce qu'on a l'équipement professionnel, puis on doit remplir une espèce de...
décharge.
Ouais, en fait, on appelle ça un carnet ATA. Ah. C'est carrément une déclaration de l'équipement qu'on a pour que quand on revient au pays, qu'on n'importe pas de l'équipement qu'on n'a pas acheté au pays pour se sauver des taxes puis tout ça. Mm-hmm. Si on a tout cet équipement-là qui vaut très cher, mais qu'on n'est pas sur un projet, ah ben là, déclarez pas que vous êtes un photographe aux douanes. Ça va éviter bien de la paperasse quand même, parce que le douanier va être curieux. OK, t'es, dans ta vie, t'es photographe, mais là, tu me dis que tu viens pas faire un contrat. Il va te poser des questions, ça va te retarder un petit peu. Bon. Troisième truc. On s'amène quelques disques durs pour prendre ces photos. Mm-hmm. Si on est sur un contrat, on a carrément des photos qui valent beaucoup d'argent. C'est carrément ta paye au bout du voyage. Ouais. Donc, s'amener un minimum de 2 disques durs pour se faire des copies. Et toujours garder les 2 disques durs à des endroits différents, c'est la même technique que se faire des sauvegardes à la maison. Mm-hmm. L'idée, c'est que s'il nous arrive un malheur, qu'au moins le disque dur, le deuxième disque dur soit ailleurs. Puis là, ça s'étend à tout. Là. Quand on prend l'avion, t'en mets un dans ta soute à bagages, puis un avec toi dans la cabine. Quand tu voyages en... tu laisses un disque dur à l'hôtel, puis t'es parti en rallye photographique pour faire un safari photo, par exemple, en Afrique, ben t'amènes un disque dur avec toi, puis l'autre, tu te laisses à l'hôtel. Tu fais toujours tes copies le soir. Mm-hmm. Comme ça, t'as une copie tout le temps. Si t'es vraiment maniaque, tu vas amener 4 disques durs, tu vas te les poster pendant ton voyage. c'est des trucs que le gars fait. Là, okay. Moi, je trouve ça pas trop bête. Ça coûte pas si cher que ça, un disque dur externe. Là,
plus maintenant,
512 gigs, c'est assez pour rentrer quand même plusieurs photos.
Oui, oui.
Puis s'envoyer ça par la poste, c'est pas non plus ce qui coûte le plus cher.
Une quantité industrielle de cartes de mémoire.
Oui, ben c'est ce que j'allais dire. Moi, je traîne toujours beaucoup de cartes de mémoire. Et ce que je fais, c'est que à chaque jour ou à tous les deux jours, je change de carte, que la carte soit pleine ou non. Je change de carte, puis éventuellement... s'il arrive un pépin, je me fais voler mon appareil ou quoi que ce soit, ben j'ai juste perdu une portion des photos.
C'est ça. Tu limites tes pertes.
L'idée, c'est ça. Une carte corrompue, ben je perds quelques photos ou une carte et c'est tout. Là.
C'est ça. L'idée, c'est de se faire des copies.
Ouais,
en gros, ça
coûte rien.
Ça, c'est
encore mieux. Là,
Puis voilà. Maintenant, un quatrième truc, ça rejoint ce que notre ami Pascal a parlé tantôt, c'est de parler aux locaux. Quand on est sur en quelque part pour en prendre des photos, c'est de prendre contact avec les locaux. C'est vraiment important pour les raisons que Pascal disait tantôt. Et le dernier truc, il y a des petits gadgets très pratiques à emmener en voyage avec soi. Par exemple, ça, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça arrive souvent, une antenne qui booste le signal Wi-Fi. Parce que souvent, on se connecte sur un signal qui vient du voisin, on a trouvé un réseau gratuit, ou bien qu'on est loin.
Mais c'est
mal
de faire ça.
C'est pas mal du tout. C'est son signal qui empiète sur ma propriété.
Il avait juste à le barrer.
Exactement. Oui. S'il veut pas que je le prenne, qu'il le barre. Mais sinon... c'est,
j'aurais jamais pensé à ça, moi non plus, j'avoue.
Des fois, même dans l'hôtel, on se connecte sur le réseau de l'hôtel, puis on est loin du routeur. Donc, une antenne va s'assurer qu'on a accès au signal d'une meilleure manière. Une batterie externe.
Oui.
C'est toujours pratique aussi pour se donner une petite recharge. C'est surtout ça pour le portable, le laptop. Et puis aussi un autre truc très, très, très pratique à traîner avec soi, un convertisseur de voltage avec un fusible intégré.
Okay.
Aujourd'hui, tous les appareils électroniques sont compatibles 110 volts et 240 volts sans problème dans tous les pays. Par contre, pour nous, les Américains qui voyageons en Europe ou dans d'autres pays où le voltage tombe à 240 volts, nos appareils sont capables de le prendre, mais ils n'ont pas toujours un fusible capable de supporter. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, je suis parti en Afrique, j'ai branché un truc qui marche sur 110 volts, 120 volts en Amérique du Nord, qui est capable de prendre 240 volts, mais il y a eu une espèce de court-circuit. Ça l'a fait sauter un de mes appareils, carrément. Là. Puis il est capable de le prendre, mais il y a eu une espèce de mauvaise connexion. Je ne l'ai peut-être pas entré assez rapidement dans la prise. Il s'est passé un court-circuit. Ça l'a brisé mon appareil. Donc, si j'avais eu un petit convertisseur avec fusible intégré, ça aurait été une espèce de tampon entre les deux. C'est le fusible qui aurait sauté tout de suite et non l'appareil.
Okay.
Alors voilà, ça complète ma liste.
Parfait. De mon côté, moi, j'ai eu quelques petits trucs, mais plus pour les débutants. Ben, pas pour les débutants, mais un peu tout le monde. Tu vois, moi, c'est un peu, comme je disais tout à l'heure, c'est de laisser son gros appareil à la maison et de s'équiper plus léger lorsqu'on veut faire de la photographie de rue. Justement, bon, d'un, ça éloigne les voleurs. Mais on voyage plus léger à ce moment-là. Et même si on a un micro 4 tiers dont on peut changer l'objectif, ben les objectifs sont plus légers, sont plus compacts. Donc, ça permet peut-être d'apporter plus d'équipement avec soi dans un plus petit sac.
Ou moi, je dirais, ou au pire, si tu vois, comme mettons, moi, ma 7D, t'enlèves la battery grip, tu prends une petite, un objectif 35 mm, oui. Tu sais, quelque chose de plus petit, plus discret, ouais. Puis déjà, c'est un petit peu mieux.
Ça peut être un bon défi aussi, un objectif à focale fixe, 35-50 mm, mmh. On se promène et puis on doit nous-mêmes nous déplacer pour recadrer, on en a déjà parlé.
Ouais.
Parmi les trucs aussi que je voulais donner, qui s'appliquent bien en voyage, lisez sur la destination où vous allez, informez-vous sur justement les coutumes du pays, les trucs comme ça, ça peut être pratique justement.
C'est pas ça que ça sert les guides?
Il y a ça. Si vous avez, ben, c'est que ça coûte cher un guide humain. Donc, ben, pas si cher, mais quand même, c'est plus cher qu'un livre ou qu'une recherche Google.
Ouais.
Donc, mais si vous avez la chance d'avoir un guide avec vous qui peut vous informer justement sur les us et coutumes, ben, c'est merveilleux.
Non, mais c'est toujours bon de savoir où c'est que tu t'en vas de toute façon, parce que tu sais s'il y a des choses que tu peux voir que... Un peu savoir où est-ce que tu t'en vas finalement. Tu sais, je veux dire, si t'as aucune idée où est-ce que tu t'en vas, pourquoi tu y vas jusqu'à un certain point. Là,
Et aussi, il y a des affaires des fois qu'on a le droit puis pas le droit de faire à l'étranger.
Oui.
Je pense juste à la Chine, c'est quand même une de mes spécialités. Les édifices gouvernementaux, on a le droit, mais il faut pas faire de diffamation avec ta photo.
Mmh. Ouais, ouais,
donc,
ouais.
Si on ne le sait pas, ben, on peut trouver quelque chose de rigolo ou il y a une arrestation en Chine, on n'a pas le droit de prendre ça.
Donne un exemple, justement.
Ben, par exemple, il y a une arrestation sur Tiananmen, des Chinois qui se font arrêter pour X, Y raison. Allez pas prendre une photo, là, parce qu'ils vont venir vous enlever votre appareil photo.
Ouais, j'en doute
et
pas.
Peut-être que même elle va tomber par terre par erreur.
Okay, par accident.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Mais ouais, c'est un très bon truc. Les officiels, les autorités, les buildings gouvernementaux, on essaie d'éviter ça autant que possible, surtout si vous n'êtes pas certain des lois et tout ça dans le pays où vous êtes.
Je ne prendrais pas en photo point à la ligne en général.
Ben, c'est ça. Donc, un conseil, par contre, ben, plutôt que de prendre des gros buildings gouvernementaux, sortez des sentiers battus, allez voir des ruelles parfois ou des trucs, en plein jour, évidemment.
Ouais.
Mais...
et avec votre caméra bien maganée.
Oui, c'est ça. Non, mais il suffit parfois juste de regarder, observer entre deux maisons, des trucs comme ça, on peut avoir un petit paysage intéressant. Moi, j'ai trouvé une cour intérieure dans le Vieux-Montréal où il y a une espèce d'escalier métallique avec tout le building est jaune à l'arrière. Puis j'ai dit, waouh, ça fait une belle photo à la verticale à cause de l'escalier métallique. Puis il y a quelqu'un qui m'avait suivi justement parce qu'on était un groupe. On marchait avec les gens de Blurb l'automne dernier, d'ailleurs.
Oui, oui.
Et là, il y a une personne qui m'a suivi. Elle a dit « Ah, waouh, c'est beau ici. C'est une bonne idée. » Mais moi, j'étais déjà allé avant quand je m'étais promené. Donc, je connaissais l'endroit. J'ai dit « Ah, je vais y retourner pour voir. »
Écoute, cette photo-là, on pourrait la mettre sur le site. J'en ai une dans le même genre aussi.
Bon.
Je me promenais à Boston, puis j'ai pris un détour par une ruelle. À un moment donné, j'ai fait comme, tu sais, j'ai envie d'aller voir là parce que j'étais seul.
Mm-hmm.
Okay, ma copine n'avait pas à me suivre puis me dire, ah, tu vas encore prendre une photo. Fait que je suis allé prendre une photo d'une ruelle avec des escaliers en métal. Fait
et
que,
voilà.
Puis même chose, verticale puis tout. Fait qu'on pourrait la mettre sur le site pour vous montrer ce que ça peut donner comme découverte d'un coup dans une ruelle qu'on pense qu'il n'y a rien qui se passe. Mais non, paf, il y a une lumière qui est claire puis ça donne un effet...
Absolument. Ou ça peut être tout simplement l'architecture, ça peut être des vêtements accrochés sur
sur une corde à linge.
Une corde à linge pour sécher. Des trucs comme ça. Aussi, prenez des photos. Prenez des clichés de tous les angles possibles parce que vous allez dire « Ah, j'ai pris seulement une photo, je voulais pas trop prendre 5 minutes, puis finalement, j'aurais pu avoir un meilleur cliché. » En bon québécois, une meilleure shot. J'ai pas réussi à sortir qu'est-ce que j'aurais aimé parce que j'ai fait ça trop vite. Je suis passé puis j'ai pas pris le temps de m'arrêter. Ben, prenez 1 minute, 2 minutes, arrêtez-vous puis essayez plusieurs 5, angles.
10 photos, etc. Pas de façon, généralement, c'est pas l'espace sur la carte de mémoire qui est le problème maintenant.
C'est ça.
Non, c'est. Non.
Puis surtout, là, ces photos-là, des fois, on peut les recadrer. Puis ça fait des fois la photo qu'il fallait.
Oui, je le fais très fréquemment. Mm-hmm. Où est-ce que j'ai une bonne photo, mais recadrée, ça devient une excellente photo.
Ah oui, avec les mégapixels qu'on a dans nos appareils maintenant, c'est
plus
tellement...
un problème.
Non, c'est plus un problème.
Et le dernier truc, ne laissez pas votre œil coller au viseur regardez autour de vous, justement. Ne faites pas juste regarder à travers un viseur. Profitez du paysage, profitez de votre voyage aussi.
Ah, ouais, même, là,
parce que c'est intéressant de prendre des photos, mais ça va vous permettre, si vous regardez vraiment autour de vous, peut-être que vous allez remarquer autre chose ou peut-être que vous allez être simplement témoin d'une scène quotidienne intéressante. Ou...
Ça arrive souvent quand on est pressé par le temps.
Oui.
Première chose qu'on fait, on prend une photo au lieu de profiter.
Oui.
Puis de prendre sa photo soi-même puis l'imprégner dans son esprit.
C'est ça. Comme tu vois, toi, tu as pris le temps sur la muraille de Chine, tu t'es éloigné un peu, tu as respiré,
ouais,
t'as
ouais, réfléchi. J'ai vraiment fait une découverte personnelle.
Au lieu de juste dire, je vais prendre la muraille sous tous ses angles ouais. pendant que je suis là,
ouais.
et tu vois, tu te souviens de ton expérience,
ah,
plutôt
ouais,
que
ouais.
juste regarder des photos et dire, waouh, c'était beau,
ah,
mais il y a quelque chose de plus à ça.
C'est marquant. Puis c'est ouais. pas parce que c'est la muraille de Chine, c'est parce que j'ai pris le temps.
Oui, exactement. Ouais. C'était l'expérience en elle-même
aussi.
Qui était intéressante. Donc, voilà. En tout cas, je pense qu'on a donné pas mal de trucs sur la photo de voyage. Ça devrait vous aider si vous préparez un voyage pour bientôt. Et on va ensuite conclure l'épisode avec le test du Nikon Coolpix A que Christian a eu la chance d'essayer.
Qui d'ailleurs? Petite parenthèse comme ça, ferait un excellent appareil de voyage.
Ah bon, ben tu vois.
Parce que, ben, l'avantage du Coolpix A, c'est que, premièrement, et c'est probablement sa très grande force, c'est un capteur renié de DSLR. C'est le même capteur que la Nikon 7000.
Ah. OK.
Donc
c'est quand même un plus grand capteur.
C'est un excellent capteur qu'il y a là-dedans.
C'est un capteur APS-C, finalement.
Exactement. C'est en plein ça. Fait que, l'avantage, c'est qu'on a un appareil qui est, somme toute, assez petit, compact, mais robuste. Mais on a toutes les capacités du DSLR, ou presque. Il y a toujours des... On doit faire des compromis quelque part,
oui.
C'est sûr et certain. Dans ce cas présent-là, le compromis le plus important, c'est l'objectif.
Mm-hmm.
Pas qu'il n'est pas bon, il est très bon, mais c'est un objectif fixe.
OK.
Et c'est un objectif fixe de 28 mm. Ce qui est quand même très bien. Okay? Mm-hmm. Je parle de 28 mm en mode l'équivalent du 35, là, l'équivalent d'un plein capteur. Finalement.
OK, donc c'est un 18, mais converti à 28 à peu près.
Oui, exactement. Moi, je dois dire, j'ai trouvé ça un peu trop large à mon goût. Certaines personnes vont peut-être aimer ça. Moi, j'aime mieux un vrai 35 à 28. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Il n'y en a pas tant que ça. Je l'ai vu. J'avoue, moi, personnellement, là, je trouve ça une petite affaire trop large dans certains cas.
C'est un grand angle, finalement. C'est un 18 mm qui tombe...
Ben, à 28, là, t'es pas loin du grand angle. Ça commence à être assez proche. Là,
c'est ça.
Fait que ce côté-là, moi, j'aimais moins. Mais par contre, en voyage, je vois définitivement l'avantage.
Ouais.
Ça, il y a vraiment... Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être assez utile.
Pour les paysages et compagnie,
exact.
L'architecture aussi. Mais là, si on veut faire des plans serrés de quelqu'un, là, il faut être proche.
C'est ça, exactement. c'est un capteur de 16 mégapixels.
Mm-hmm.
Donc, je disais, c'est ça, c'est un DX, un capteur Rognier Nikon. Plage ISO de 100 à 6400, extensible jusqu'à 25600. ISO utilisable, 3200. Moi, je pense que 3200, là, c'est encore, oui, un peu de grain, mais c'est quand même très potable.
Mm-hmm.
1600, c'est très bien. Là. C'est vraiment, là, c'est presque irréprochable à 1600. Un rafale 4 images à seconde, bon, ça, c'est moyen,
ben,
là,
c'est
mais
correct.
C'est correct. Là, c'est pas rien d'exceptionnel. Mode RAW, NEF. Écran de 3 pouces de 920K. Vidéo 1080p en 24, 25 ou 30 images par seconde. C'est point positif. Comme je disais, ben, boîtier compact, très solide. Puis quand je dis compact, là, pour de vrai, cette fois-ci, on a vraiment quelque chose qu'on peut facilement glisser dans une poche. Puis on le sent pas trop. Là. Moi, en tout cas, ce côté-là, là, je l'ai énormément apprécié. Puis je disais, tu sais, c'est pas un boîtier en plastique. Là. C'est quand même très solide.
Mm-hmm.
Une ergonomie qui est quand même assez bonne, des menus, tout ça. Bon, vous savez, mon point de vue, c'était pas la première fois, mais disons qu'en général, j'ai pas trop cherché ce que j'avais. Puis ce que je disais qui était un défaut du D600, justement, un mode où on pouvait avoir une vue d'ensemble de toutes les configurations de l'appareil, lui, il y en a un.
Ah, ok, c'est bien.
Je trouve ça très bien. Ça, c'est une très bonne chose. Très bonne qualité visuelle, beaucoup de détails sur le quand on prend des photos, tout ça, franchement, en tout cas, on voit que c'est vraiment un capteur de DSLR là-dedans. Mm-hmm. Là, on le voit. Puis celui de la D7000 est quand même assez... Il a une bonne réputation, puis ça paraît.
OK.
Dans les points négatifs, par contre, lent à faire le focus. Je trouve, de ce côté-là, c'est pas le plus rapide. Disons que... Soyez pas trop pressés. Surtout quand il manque de lumière, là, moindrement, là, c'est
ah oui,
très...
Il cherche.
Disons que... Il y a une belle expression en anglais, là, hunting, là, il est à la chasse de ces choses, définitivement. Là, okay. Il chasse beaucoup.
Mais il n'y a pas une espèce de petite lampe d'assistance à la
ouais,
mise au point,
mais c'est...
Non? OK.
En tout cas, c'est... Ce côté-là, j'ai été déçu, j'avoue un petit peu, mais en bonne luminosité, c'est pas le plus rapide que j'ai vu, mais il est
correct.
Okay. Bon, 4 images par seconde, c'est correct là, pour le mode rafale, mais c'est un petit peu moins que la compétition. On commence à en voir là, qui est du 6, 7, 8, 10 images par seconde.
Mm-hmm. Surtout qu'il n'y a pas de miroir. Là,
c'est ça, là, exactement. Ouais. Il pourrait faire un petit peu mieux. Mais encore une fois, pas la fin du monde, loin de là. Une chose que j'ai trouvée très agaçante, par contre, le mode vidéo n'a pas de bouton dédié.
Ah.
Puis ça, c'est fatigant parce que trouver comment activer le donné mode vidéo, je l'ai vraiment cherché. Oui, tu sais, encore une fois, on en a déjà parlé, j'aurais pu regarder dans le manuel puis je l'aurais trouvé rapidement, mais je trouve ça intéressant de faire le test.
Oui, ben de l'essayer comme si tu connaissais rien ou
exactement,
à peu près
puis
à la photo,
en général, puis... je trouve les affaires... Lui, là, j'ai vraiment cherché. À un tel point qu'à un certain moment donné, il y a un bouton FN, fonction, dessus, qu'on peut assigner quelque chose. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai assigné le bouton fonction, ce qui peut être une bonne idée,
ben
soit
oui,
dit en passant.
T'es bien débrouillé.
Ouais. Oui, oui.
En fait, j'ai lu le manuel, puis c'est ça qu'ils disent d'affaires.
Ouais, c'est ça, ouais.
non,
mais... Ben, mais non, mais c'est... Je veux dire, je trouve ça bien que tu peux savoir ce bouton-là en fonction, mais en même temps, c'est tu le perds.
Oui, tu
juste
perds pour autre
ça.
Chose, ouais.
Fait que, tu sais, je veux dire, c'est bien, mais... En tout cas, tu sais, je trouve, j'aurais préféré, surtout maintenant, tu sais, on a quand même un appareil qui peut être utilisé facilement pour le vidéo, ça aurait été bien d'avoir un bouton dédié pour ça. Dans les petites choses, c'est pas des négatifs, mais je voulais juste le souligner, il n'y a pas de viewfinder, il n'y a pas de fenêtre, là, vraiment, c'est, on a que
le
visage.
Il
n'y
a pas de
viseur, exactement. Okay. Par contre, on peut en avoir un, puis vous allez voir, j'ai une photo avec, on peut en acheter un qu'on met sur le...
Le sabot.
Merci beaucoup. J'avais juste le hot shoe dans ma tête et je cherchais. On peut le mettre sur le sabot.
Mais ça fait un peu steampunk, ce truc-là.
Le look est intéressant, mais j'ai essayé de l'utiliser un peu, puis ça ne marche pas. Moi, ça me plaisait vraiment pas. Je trouvais que ça l'exagérait beaucoup trop.
Oui, je l'ai essayé quelques minutes. C'est spécial, un peu comme...
C'est spécial.
C'est comme une petite loupe. Hein?
Oui, ben, ça fait... c'est pas comme une loupe parce que ça grossit pas l'image.
Mais ça déforme beaucoup.
Ah, ça déforme un peu.
Moi, j'ai trouvé que ça déforme beaucoup, par exemple. Fait que... Je trouve que ça donne pas une assez bonne idée de qu'est-ce que tu vois à cause de ça. Mm-hmm. Mais le look est intéressant. Comme tu dis, c'est un petit look steampunk quand c'est sur le dessus. Vous verrez, j'ai une belle photo de l'appareil avec dessus.
En tout cas, si vous voulez vous faire remarquer quand vous prenez une photo
ça,
avec un appareil compact, c'est l'appareil à acheter parce qu'il n'y en a pas d'autres qui offrent ça, je pense.
Non. Puis, ben évidemment, bon, il n'y a pas de GPS. On peut utiliser la joue. C'est pas la fin du monde, mais certaines personnes trouvent ça intéressant. Il n'y a pas de Wi-Fi non plus.
D'ailleurs, excuse-moi, petite parenthèse, le GPS, ça peut être un truc pratique quand on fait de la photo de voyage, justement, pour se rappeler où on était quand on a pris la photo. Une fois, quand on revient à la maison, si on a pris 1000 photos, on va pas nécessairement les traiter tout de suite. Et là, si on sait plus
mais
où on était...
Au pire, si vous voulez, je sais que cet appareil-là est compatible avec... Il y a un petit module que Nikon vend qui est compatible avec. Fait que ça peut être une solution. Comme je disais, il n'est pas non plus Wi-Fi qui commence à être de plus en plus la norme, il n'est pas touch. Encore une fois, rien de majeur, mais c'est bien de le souligner que ça commence à de plus en plus être la norme, mais lui, il ne l'a pas.
Okay.
C'est un appareil que je recommande chaudement, sans aucun doute. Comme je vous dis, testez-le pour un seul détail, c'est si l'angle vous plaît. Parce que moi, vraiment, j'ai préféré le 35 mm au 28. C'est pas une grosse différence. C'est pas majeur. Mais il y avait quelque chose qui m'agaçait. Puis je savais pas c'est quoi. Puis c'est quand je me suis arrêté pour faire mes notes, j'ai fait « Ah, c'est ça. Ça doit être ça. » Parce que je me rappelle, j'avais la X100 dans les mains. Puis c'est une 35 mm. Puis ça m'a jamais agacé.
Mm-hmm.
Puis lui, on dirait que j'avais de la misère à... Tu sais, avec mes angles, des fois, il fallait toujours que je me rapproche plus. Ça m'agaçait un peu, c'est niaiseux, là, mais sais, c'est pas majeur, là. Tout est une question de goût rendu à ce point-là.
Et combien coûte-t-il, cet appareil?
Je gardais ça pour la fin. C'est, je pourrais dire, par contre, un autre point faible, qu'on pourrait dire.
Un point faible, oui.
C'est ça.
Le mot est faible.
Ben, il est 1100$. Disons que c'est dans les mêmes plates-bandes que la X100. C'est à peu près le même prix. C'est pas vraiment surprenant, mais c'est pas non plus abordable. Par contre, le viseur à 300$.
379$.
Excusez-moi, oui. Je le conseillerais vraiment pas.
Mais
là,
ça, c'est le prix suggéré par Nikon, je crois.
Je pense pas que ça va être bien en bas de ça. Là. Ça serait surprenant. Tu sais, je veux dire, il va probablement être un petit peu moins cher que ça. Ben, probablement des environs de 1000$. Là, mais tu sais. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est pas,
si vous aimez montrer ce que vous avez comme appareil, pourquoi pas? On le paye, mais... le 300$. Et puis, on a un appareil qui est complètement unique. Là.
Ouais, absolument. Ouais, ça, il n'y a pas...
Quand t'as les moyens...
Je me fais l'avocat du diable. Ouais, ouais. Je suis fashion, je me promène dans la rue, je suis hipster, puis j'ai mon appareil. J'ai envie de montrer que j'ai un viseur cool monté sur le dessus de ma caméra. C'est le fun.
Tout à fait. Non, regarde, c'est...
Pimp mon compact.
Ouais. C'est sûr qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que... Ça reste quand même que c'est le même capteur que la DM7000. Oui.
Et ça, on doit payer le prix parce que tout le reste, c'est quand même dans un boîtier miniature, un boîtier compact. Donc, oui, ça coûte cher. Là, mais...
C'est sûr, mais c'est pas pour tous les moyens. Ça.
C'est ça. Ah ben, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Et d'ailleurs, ça va conclure cet épisode. Alors, merci Pascal. Et d'ailleurs, où peut-on te retrouver sur Internet?
Bien évidemment, sur le site du Club Aventure, clubaventure.com. Nous avons notre site YouTube, notre chaîne YouTube, où on peut voir quelques-unes de mes photos sur certains diaporamas, si on peut dire.
Parfait. Et il y a de tes photos sur le site aussi, j'appelle.
Sur le site, un peu, mais pas beaucoup. C'est vraiment plus axé sur le YouTube. Là.
Parfait. Oui. Bon, puis on va te pousser à te monter un site Flickr, puis on donnera le lien quand ça sera disponible.
Excellent.
En espérant que ça va être plus un succès que François et Twitter. Là.
Oui, et Google Plus aussi.
Mais
on lui donne Twitter? Le choix, en
je
plus.
Je sais.
Il y a le choix, Twitter ou Google Plus, mais non.
Mais non.
Ah, Twitter, c'est pas le réseau social qui s'est fait hacker il n'y a pas longtemps, là?
Aucune idée.
Ouais.
Non, il y a eu à peine 10%, peut-être même pas des comptes.
Ah, OK.
Non, si sur Internet, t'es fait hacker.
Oui, de toute façon. Parce que tous les gens prennent le mot soleil comme mot de passe ou secret ou 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et là, changez vos mots de passe, les gars.
Faut pas faire ça.
T'oublies un des plus populaires aux États-Unis, God.
Ah, oui.
Trois lettres.
Ouais, trois lettres.
Trois lettres en plus, ouais, c'est ça.
C'est de l'encryption, ça, mes amis.
Oui, définitivement.
Donc, avis à tous ceux qui nous écoutent, changez votre mot de passe si ça ressemble à ceci.
Ouais.
Donc, merci Christian.
Ça fait plaisir.
Merci François.
Merci beaucoup.
Et merci à vous, chers auditeurs. Donc, vous pouvez nous envoyer vos mots de passe. Non, c'est une blague. Vos questions, commentaires et suggestions pour des sujets à podcast@objectifnumérique.com. Et pour nous rejoindre sur Twitter, cette bête indomptée de François, c'est au numérique. Et sur Facebook et Google+, Objectif numérique, vous allez nous trouver facilement. Merci, à la prochaine!